And frankly, there's nothing so unusual about being a Jewish cowboy.
Dimanche 17 mai à 16h précise, Émouvance et Radio Grenouille vous invitent aux grandes tables de la Friche Belle de Mai pour un concert radio commenté en public et en direct avec Yom. Clarinettiste et explorateur infatigable, Yom sera accompagné du guitariste Aurélien Nafrichou. À l'image de leur projet Yom and the Yiddish Cowboys, les deux musiciens nous proposent un voyage entre mélodie klezmer et blues saturé, sonorités entremêlées et commentées, pour raconter l'intimité de l'exil, la rencontre des cultures, des musiques et des hommes. Le concert radio commenté avec Yom et Aurélien Nafrichou, c'est dimanche 17 mai à 16h aux Grandes Tables. Une proposition d'Émouvance et Radio Grenouille dans le cadre du week-end Made in Friche.
Bienvenue à toutes et à tous ici aux grandes tables de la Friche et sur le 88.8 de la FM sur le www.radiogrenouille.com où l'on nous écoute en ce moment même. On est ensemble pour ce concert radio commenté donc pour lequel Émouvance et Radio Grenouille dans le cadre de ce week-end Made in Friche ont choisi d'inviter pour une émission très spéciale Yom. Salut Yom.
Bonjour, bonsoir.
Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation.
Mais merci de m'avoir invité.
Alors tu n'es pas venu tout seul puisque Aurélien Nafrichou, qu'on va présenter également tout à l'heure, est également avec toi à la guitare baryton. Et évidemment Yom, tu es venu avec ta clarinette. Hein, pour
mes clarinettes.
Et même tes clarinettes. Santé Machine, ça va donc être un duo, ouais. Par contre Santé Machine, ouais. Un duo guitare-clarinette pendant ce concert radio commenté, où on va un petit peu aborder une partie des origines et des voyages de la musique klezmer, puisque c'est dans cet univers-là que tu t'es fait connaître depuis une huitaine d'années, on va dire, en
c'est
tant qu'artiste
ça, ouais.
Solo,
ouais, tout à fait.
Avant d'avoir officié, entre autres, dans l'ensemble Klezmer Nova.
Exact, pendant quasiment 10 ans.
Qui fait partie des tenants d'un new klezmer, on pourrait appeler ça, je ne sais pas, qui fleurit pas, ouais. Mal de par le monde.
Bah, disons que c'est un peu les pionniers du renouveau du klezmer français, parce qu'après, c'est vrai qu'au niveau du klezmer américain, ça a commencé dans les années 70, mais Klezmer Nova, qui avant s'appelait l'Orient Express Moving Schnorrers, je suis la seule personne qui est capable de prononcer ce nom, l'Orient Express Moving Schnorrers, ça s'est créé en 1995, moi je suis rentré dedans en 1997, et puis en 1999, c'est devenu Klezmer Nova, ouais.
En tant que Yom, tu t'es fait un peu une spécialité de te transporter avec ta sensibilité klezmer dans des arrangements et dans des cadres, des univers musicaux plus ou moins, souvent plus éloignés de ce qu'on pourrait appeler la tradition, un terme qu'on va peut-être discuter un petit peu d'ailleurs, la tradition klezmer dans le cadre de cette émission, puisque c'est une musique qui a une longue histoire. Tu es d'accord si je t'identifie un petit peu, si je te présente comme ça musicalement ?
Tout à fait, moi je me définis maintenant comme clarinettiste d'origine klezmer, parce que je pense plus qu'on puisse dire que la musique que je fais actuellement c'est vraiment de la musique klezmer, parce qu'effectivement je la mélange avec du rock, de l'électro, là avec Aurélien, avec vraiment du blues, de la folk, de la country, etc. Mais aussi avec de la musique quasi classique dans mon projet Le Silence de l'Exode, donc je me réclame quand même d'une appartenance lointaine, en tout cas d'une origine klezmer, mais maintenant je ne prétends pas que ma musique actuelle est vraiment une musique klezmer, en tout cas pas traditionnelle. Mais effectivement, est-ce que la musique klezmer traditionnelle existe vraiment ? C'est une question.
Tu y réponds en partie avec ton dernier projet qui s'appelle Le Silence de l'Exode. J'en parle aussi parce que ce concert radio commenté se tient dans une sorte de dynamique que Radio Grenouille a avec Émouvance. Et Émouvance propose en octobre prochain, du 14 au 17 exactement, la nouvelle édition de son festival, Les Émouvantes, où tu viendras le jour de l'ouverture, si je ne m'abuse, le 14, présenter Le Silence de l'Exode ici à la Friche, dans la salle Seita. Le Silence de l'Exode avec le violoncelliste Farid Day,
voilà,
Bijan Chemirani que les Marseillais connaissent bien.
Bijan Chemirani aux percussions et Claude Chamichian à la contrebasse. Et c'est un projet qu'on tourne maintenant depuis quasiment 3 ans. Le disque est sorti il y a à peu près 1 an maintenant, enfin un peu moins. Et voilà, c'est mon dernier vraiment projet discographique et c'est un de mes derniers projets de composition. Et qui me tient beaucoup à cœur et vraiment avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à tourner depuis 3 ans maintenant. Et donc je suis ravi qu'on vienne le jouer aux Émouvantes à Marseille.
Les Émouvantes du 14 au 17 octobre sur le thème de mémoires emportées. On vous en reparlera évidemment sur les ondes de Radio Grenouille. Aujourd'hui, on est aussi là ensemble pour donc parler de musique klezmer, comme je le disais, mais dans le cadre quand même déjà bien particulier d'un projet que vous avez ensemble avec Aurélien,
qui
est un projet qui date pas d'hier, je crois, mais qui est en pleine création. Vous allez le présenter au Festival d'Île-de-France à la rentrée.
Ouais.
Ça s'appelle Yom and the Yiddish Cowboys.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est issu d'un duo avec Aurélien qu'on travaille depuis déjà quand même assez longtemps maintenant. Je crois que ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille en duo. Au départ, sur des thèmes traditionnels yiddish, arrangé du côté de l'Americana. Donc l'Americana, c'est la musique traditionnelle, traditionnelle entre guillemets américaine, du côté de la country, bluegrass, blues, folk, etc. Et Aurélien, ici présent à la guitare baryton, en est vraiment un spécialiste. Et donc c'est lui qui s'occupe de la partie arrangement de ce nouveau projet qui sera en quintette à la rentrée au Festival d'Île-de-France avec basse, batterie, deux guitares et clarinette. Et là, la version qu'on a en duo, c'est plutôt donc des thèmes traditionnels yiddish ou quelques compositions à moi qu'on a réarrangé à deux, effectivement, ouais, du côté du blues, mais avec une forte présence encore de la tradition klezmer. Voilà, c'est il y a quelques thèmes dont on parlera. D'ailleurs, le premier qu'on va jouer, c'est un thème qui est un thème de Naftule Brandwein. Naftule Brandwein, c'est un des plus grands clarinettistes klezmer qui ait jamais existé
qui tu as dédié ton
mon premier album. Ouais. Voilà.
New King of the Klezmer.
Voilà, exactement, parce que c'était un clarinettiste un peu fou. Et d'un certain côté, il est venu de Bessarabie orientale, il est arrivé aux États-Unis en 1908 ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'était un cow-boy, en fait, dans l'esprit. Un cow-boy un peu punk et en même temps musicien klezmer émérite.
Un peu gangster aussi.
Complètement gangster.
D'accord.
Ouais. Ce que nous ne sommes pas du tout avec Aurélien, je tiens à le préciser.
Donc, on peut être. Alors. Attends, avant de continuer, je voulais te demander quelque chose, puisque je suis sur la scène ici, juste à côté de Yom et Aurélien, sur les grandes tables. Yom, sa clarinette à la main, mais tiens un truc là. tiens
ouais.
un truc là sur les dents.
Ouais, je plie du papier à cigarette que je mets sur. Parce que j'ai les dents du bas extrêmement tranchantes.
D'accord.
Voilà. Parce qu'il faut savoir que ma mère est originaire de Transylvanie, sur les pentes des Carpates. Et donc j'ai. Non, mais c'est vrai. Hein. Et donc voilà, j'ai les dents extrêmement tranchantes. Donc je suis obligé de mettre du papier à cigarette plié sur mes dents, sinon carrément je me saigne moi-même.
D'accord. dangereux métier que celui de musicien. Donc, ouais. Donc on peut être klezmer et gangster. Et d'ailleurs, le klezmer, c'est une musique dont on peut voir des origines sacrées liées à la liturgie juive. Mais c'est quand même surtout une musique pour faire la fête et avec des gens qui n'étaient pas faites par des gens pas toujours considérés comme très recommandables depuis longtemps.
Vraiment très peu recommandables, au point que d'ailleurs c'est assez drôle, les klezmorim, donc les musiciens klezmer à l'époque en Europe de l'Est, pas dans toutes les parties de l'Europe de l'Est, mais dans certaines régions particulièrement reculées, quand ils allaient de shtetl en shtetl pour aller dans les petits villages habités par des populations principalement juives, ils étaient souvent avec des tziganes pour aller jouer pour les mariages ou les bar mitzvahs ou quoi, et souvent on leur demandait eux, au début du mariage, de laisser une caution, donc des bijoux ou des choses, et qui récupéreraient qu'en partant pour être sûr qu'ils ne volent pas des trucs au passage. Voilà. J'étais hyper étonné d'ailleurs que vous nous demandiez de rien laisser avec Aurélien. Je crois que vous ne vous rendez pas trop compte.
Alors, dans ces origines-là, qui sont difficiles à démêler en vérité, pour tout dire, hein, c'est un gros mélange. Enfin, ce n'est pas qu'un gros mélange, c'est plein de mélanges différents localisés dans. Tout un ensemble géographique assez large qui va de la Turquie à l'Allemagne.
Exactement, c'est quand même un gigantesque melting pot, surtout que les gammes reconnaissables de la musique klezmer, si on veut les différencier vraiment des musiques tziganes des mêmes contrées d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, c'est des gammes qu'on appelle les gammes orientales, vraiment avec seconde augmentée, c'est-à-dire que c'est ça que les gammes, enfin la musique orientale, entre guillemets, est arrivée en Europe de l'Est, d'un côté par l'Empire ottoman, qui a quand même passé à peu près 500 ans d'une occupation assez rigide, on va dire, mais qui a amené des choses musicalement très intéressantes. Mais bon, voilà, une occupation d'une partie des Balkans, mais aussi par ces populations juives qui, elles, venaient de territoires, évidemment, qui étaient plus du côté soit du Moyen-Orient, soit même une partie Afrique du Nord, et qui ont amené ces gammes orientales. Mais évidemment, le klezmer allemand, le klezmer hongrois, le klezmer roumain, le klezmer serbe, le klezmer bulgare, le klezmer turc, c'était des musiques quand même assez fondamentalement différentes, même si maintenant on essaye d'y retrouver une unité globale. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment la musique klezmer? J'en suis pas certain. C'est vraiment un territoire tellement large et des influences tellement multiples qu'on devrait dire au moins les musiques klezmer.
Alors là, tu parles d'influence. De branche orientale, quoi, de racine orientale. Donc, ouais. C'est aussi séfarade aussi, même si...
Ça vient, on va dire, d'avant la séparation séfarade et ashkénaze. Alors, par exemple, moi, sur le silence de l'Exode, je me suis intéressé à une période, un exode du peuple juif qui est la sortie d'Égypte. Bon, là, c'est carrément il y a 3300 ans, mais ça nous permet de se rappeler que... il y a 3300 ans, de toute façon, les Juifs habitaient dans le désert et que de toute façon, même les Juifs qui sont du côté de l'Europe de l'Est, de toute façon, viennent du Moyen-Orient, de l'Orient et de l'Afrique du Nord.
Voilà. Klezmer, ça veut dire le véhicule de la chanson, c'est ça, ou voir l'instrument de musique, ça a été utilisé comme ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, même si c'est une musique qui a très longtemps été d'abord sur la pratique instrumentale, elle est toujours... La manière de jouer est toujours très vocale.
Voilà, bah en fait, klezmer, c'est deux mots hébreux, kles et zemer, ça veut dire instrument et voix. Donc c'est vraiment l'idée qu'avec l'instrument, on doit imiter la voix, l'émotion de la voix, les capacités, voire la surinterprétation de la voix, les ornements, les inflexions. C'est pour ça que c'est une musique qui est extrêmement expressive et que c'est la clarinette et le violon qui sont un peu les instruments rois de au point de vue des thématiques, parce que c'est les instruments qui sont vraiment le plus proche de la voix, tout simplement.
C'est aussi une musique de l'émotion, des émotions, très variable, même si c'était avant tout pour des moments de fête, pas toujours que dans la communauté juive, comme tu le soulignais aussi.
Tout à fait.
Voilà. Et notamment, Tziganes et musiciens Tziganes et Klezmer ont souvent fait bon ménage.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pouvaient aller jouer pour des mariages qui n'étaient pas forcément ni juifs ni tziganes. Mais il y avait une tradition musicale chez les juifs et chez les tziganes dans cette région du monde, qui est d'ailleurs restée, puisque maintenant la musique tzigane, la musique juive là-bas n'existe plus. Hein, on va pas. À partir de la Seconde Guerre mondiale, elle a vraiment été totalement exterminée et chassée d'Europe de l'Est. Mais la musique tzigane actuelle en Europe de l'Est, en Europe centrale, pour moi, c'est une des musiques les traditionnelles les plus intéressantes au monde. Et puis, c'est des virtuoses incroyables. Et c'est arrivé dans des domaines vraiment de complexité harmonique, thématique, qui sont super, super intéressants.
On va continuer cette émission ensemble en vous laissant... illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, puisque qu'est-ce que tu as choisi comme première composition?
Alors c'est un thème
traditionnel.
C'est un thème. On n'arrive pas à savoir si c'est traditionnel et que le premier à l'avoir joué ou en tout cas enregistré, c'est Naftule Brandwein, ou si ça a vraiment été composé par Naftule Brandwein. Mais bon, ça s'appelle Dem Reben Chosidel. Ça a été enregistré en 1923, je crois, par Naftule Brandwein, et ça veut dire en gros le disciple du rabbin. Ce qui est assez drôle quand on connaît la vie de Naftule Brandwein, qui est jamais rentré dans une synagogue et qui se passait son temps à boire de l'alcool et à abaisser son pantalon sur scène. Enfin, ça en fait pas non plus, vous inquiétez pas. Mais donc un petit hommage à Naftule Brandwein, Dem Reben Chosidel.
Nous sommes avec Yom et Aurélien Africhou en direct pour ce... Guillaume et Aurélien Nafrichou à la guitare baryton, Guillaume à la clarinette, toujours en direct sur Radio Grenouille pour ce concert radio commenté. Alors on disait, Aurélien, tu veux bien te saisir du micro qui est derrière toi, s'il te plaît. Parce qu'on disait que c'était le Guillaume and the Yiddish Cowboy, c'est pas un projet qui date d'hier, puisqu'en fait vous avez commencé à jouer en duo il y a déjà, c'était quoi, vous me disiez 2007, c'est ça? Ou un peu après?
Non, on s'est rencontrés en 2007, on a D'accord. commencé un petit peu après, tout doucement. Et puis
au moment où tu avais tous tes projets en duo
juste après mon disque Unoué, qui était Unoué un disque en duo, duo, effectivement, donc ça c'était 2009. On a dû commencer vraiment à jouer en duo, je pense en 2010 à peu près.
D'accord. Voilà.
Mais on se connaissait depuis quelques années, se fréquentait, parce que bon, le projet Yiddish Cowboys, évidemment, il y a un côté répétition très important, mais il y a un côté aussi où on est obligé d'aller s'entraîner dans les saloons, d'aller faire des courses de voitures américaines et des choses comme ça. Ça fait partie aussi du travail global du projet, c'est hyper important.
Le rodéo aussi.
Le rodéo, dans la Camargue.
Aurélien, toi, tu étais familier de l'univers de ces musiques klezmer dans ta pratique avant de travailler avec...
Non, pas du tout. Je pense que la première fois que j'ai entendu de la musique klezmer, c'est quand j'ai entendu Yom, en fait.
Il y en a subi un traumatisme assez terrible, d'ailleurs.
Non, c'est vraiment pas ma culture. Voilà, moi, je viens plutôt du rock. Enfin, je viens plutôt de la musique américaine, vraiment au sens large. Le blues, d'abord. Quand j'étais gamin, c'est la première chose que j'ai eu l'occasion d'entendre. Et puis, c'est resté à peu près comme ça.
Mais je pense que c'est super intéressant pour moi aussi, justement, de jouer avec des gens qui ne connaissent pas forcément cette musique klezmer, parce que ça permet d'y aller librement, et notamment sur l'arrangement. C'est vrai que jouer, je l'ai fait beaucoup, évidemment, avec des gens qui connaissent parfaitement la musique klezmer, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour s'en éloigner et s'autoriser à réinventer la musique, parce que forcément, on a des codes communs, et donc on se retrouve sur ces codes communs. Là, avec Aurélien, et une culture que moi, j'ai pas beaucoup, enfin le blues un peu, mais l'americana au sens large, vraiment pas beaucoup. D'abord, j'adore parce que Aurélien me fait découvrir plein de musique complètement géniale. Et à côté de ça, dans l'arrangement, il y a une complémentarité dans les instruments, dans la manière de voir la musique. Je découvre des choses. Et puis, j'ai des idées d'arrangement d'Aurélien que j'aurais pas forcément moi, avec ma culture, qui est quand même assez fortement monomaniaque du côté de l'Europe de l'Est, quoi, faut le reconnaître.
Alors revenons-y justement, et on va reprendre notre fil historique par la même occasion, avant de reparler un petit peu tout à l'heure du projet Yom and the Yiddish Cowboys aussi. Alors on est en Europe de l'Est, et en Europe en tout cas, mais on va partir déjà vers les États-Unis, puisque les communautés juives ont connu une histoire qu'on connaît bien, et certaines ont pu partir aux États-Unis avant
tout à fait.
La Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. Et du coup, des musiciens aussi sont partis aux États-Unis. Quelques-uns. Et du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui musique klezmer est beaucoup déterminé. Il s'est passé un phénomène assez particulier par ce que ces musiciens, un petit groupe de musiciens, a pratiqué comme musique et enregistré comme musique aux États-Unis, ce qui est aujourd'hui considéré un peu comme le canon traditionnel de la musique klezmer, presque 100 ans après.
On est bien obligé de vu que c'est une musique orale, il n'y a pas de partition. Évidemment, il y avait des studios d'enregistrement aux États-Unis, alors que dans un shtetl au fin fond de la Bessarabie orientale, c'est sûr qu'il n'y avait aucune chance que quelques clarinettistes que ce soit puissent enregistrer un album. Donc, effectivement, on a comme traces, en tout cas les plus connues et principales, parce que sinon après il y a quand même des collectages qui ont été faits sur rouleaux de cire au début du XXe siècle, mais alors là le son est quand même très compliqué à entendre, il faut aller sur des appareils spéciaux pour pouvoir les lire, alors que c'est vrai que Naftule Brandwein par exemple, qui est un des premiers à avoir enregistré aux États-Unis, c'est des 78 tours et puis ça a été réédité en CD, etc. Mais alors après, sur l'histoire de la musique klezmer, je suis obligé de revenir dessus parce que pour moi, il y a des détails assez importants. Effectivement, jusqu'au XXe siècle, début du XXe siècle, c'est une musique vraiment européenne, donc totalement européenne. Et puis, au fur et à mesure, quelques musiciens partent aux États-Unis. Alors là-bas, ils deviennent un peu connus parce qu'il y a une grosse communauté juive, qu'il y a des studios d'enregistrement, qu'il y a Broadway, etc. Donc forcément, ça les fait connaître beaucoup plus qu'ils l'auraient été dans des petits shtetls en Europe de l'Est. Mais après, il faut quand même savoir qu'à partir des années 30, le klezmer disparaît totalement, même de New York aux États-Unis, on n'en entend plus parler du tout. Et puis après, avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, klezmer qui a été complètement, enfin pas que le klezmer, mais évidemment toute la communauté juive, mais le klezmer qui a été entièrement exterminé d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, le klezmer a subi une disparition totale. C'est-à-dire même aux États-Unis, on s'en occupait plus du tout. Et c'est que dans les années 70 que une deuxième, troisième, quatrième génération de juifs musiciens, jazzmen new-yorkais ont décidé de, entre guillemets, ressusciter cette musique, aller chercher les enregistrements de Naftule Brandwein, de Dave Taras, de Mickey Katz, de toutes sortes de gens comme ça des années 10, 20, 30, et trouver des partitions, des rouleaux de cire, et reconstituer un répertoire qui avait été complètement, mais vraiment complètement oublié. Et ça, c'est un mouvement qu'on a appelé le « revival ». Aux États-Unis, enfin eux ils ont un meilleur accent, mais en gros en français ça fait le revival. C'est là que le klezmer a ressuscité. Avant les années 70, plus personne ne savait ce que c'était que le klezmer. Et à partir de là, il y a eu la radical Jewish culture, il y a eu John Zorn, il y a eu plus tard Krakauer, il y a eu les klezmatics, les klezmorim, etc. Puis encore bien plus tard, dans les années 80-90, le klezmer qui a commencé à revenir en France par l'intermédiaire de Denis Cugnot, l'Orient Express, Mönchengladbach, Klezmer Nova, etc. Voilà.
La rencontre avec le jazz, c'est aussi un enrichissement des harmonies, j'imagine. Et l'improvisation aussi, parce que le klezmer n'est pas nécessairement une musique d'improvisation. Deux mots là-dessus sur ornementation, improvisation.
Il y a deux rencontres avec le jazz. Non, mais il y a deux rencontres avec le jazz. Il y a la rencontre avec le jazz dans les années 20 et dans les années 30 du côté de Broadway, avec un rapprochement avec la New Orleans, etc. Donc là, effectivement, il y avait beaucoup de musiciens juifs à New York qui jouaient pas du tout de musique klezmer, mais Benny Goodman, qui était donc vraiment à la fois grande culture classique et à la fois culture New Orleans jazz, quand sur certains concerts, sur certains lives, on entend tout à coup il part klezmer et on voit qu'il connaît très bien cette musique et qu'il la joue très bien. Donc ça c'est intéressant, ça c'est la première rencontre avec le jazz. Et après dans les années 70, comme c'est des jazzmen qui ont redécouvert cette musique, c'est parti immédiatement dans des contrées vraiment beaucoup plus lointaines pour le coup. Alors là, du côté de John Zorn, on appelle encore ça de la musique klezmer, je sais pas pourquoi, c'est parti vraiment loin, c'est génial qu'il y ait une racine lointaine, mais je veux dire là c'est du John Zorn, c'est pas forcément du klezmer, c'est un compositeur juif new-yorkais, mais voilà, ça c'est la radical Jewish culture, c'est plus vraiment du klezmer, c'est un vrai mouvement musical à part, voilà.
Il est temps que tu reprennes ta clarinette, Guillaume, je crois.
C'est parti.
Ça va, le papier de cigarette est toujours en place.
Ouais, ouais.
Alors on va continuer ce programme de concert radio commenté avec Mein Jingle.
Mein Jingle, ouais, c'est un morceau, je préfère prévenir, c'est un morceau donc yiddish traditionnel, à tendance extrêmement triste, les paroles sont terribles, c'est un père qui dit à son fils quand je pars le matin au travail, tu dors encore, quand je reviens le soir du travail, tu dors déjà, un jour je serai mort et je ne t'aurai pas vu. Voilà, c'est une chanson yiddish normale, quoi.
Thank you.
en direct sur Radio Grenouille, depuis les grandes tables de la Friche Belle de Mai. Si vous nous écoutez sur les ondes ou sur le web, vous entendez le public qui est là, qui applaudit. Yom et Aurélien Nafrichou. Alors, Mining, pourquoi avoir... Il y a une raison particulière à avoir choisi ce titre-là, à ce moment-là, de notre discussion.
Ouais, parce que, en fait, dans la première version des Yiddish Cowboys, il y avait une il y a eu un moment où ça a été carrément, on en a fait un spectacle pour enfants, où je racontais l'histoire complètement bizarre de Moïse qui venait de Bessarabie orientale et qui était lui-même le fils d'un éleveur de betteraves clandestin et d'une tricoteuse de slip en laine. Voilà, mais bon, enfin, je vais vous passer quand même toute l'histoire. Mais il se trouve que ce projet, étrangement, c'est aussi un hommage à mon père qui a été adopté par un Américain bizarrement à l'âge de 15 ans. Et donc, qui s'est retrouvé de sa famille un peu étonnante et lointaine dans une famille plutôt aisée américaine en 1953. Et voilà. Et donc là, ce petit morceau Meiningele, qui est un père qui s'adresse à son fils, voilà, je trouvais que ça faisait une espèce de trois générations de ma famille du côté. Mais enfin, voilà, c'était un petit clin d'œil personnel.
On parlait de rapidement de l'histoire de la musique klezmer, j'allais dire yiddish.
En fait, pour être clair, ce morceau, c'est vrai, est un morceau yiddish, puisque évidemment, c'est une chanson en yiddish. Et d'ailleurs, j'en fais une version complètement orientale. Donc, ça illustre aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je le joue. Enfin, si on l'entendait là tout de suite, une version vraiment traditionnelle des années 20 chantée en yiddish, on s'apercevrait que ça n'a pas rien à voir, mais pas loin avec la version qu'on fait. Mais entre le côté guitare baryton qui amène quelque chose de vraiment très américain et moi qui amène un côté complètement oriental. D'ailleurs, j'ai une autre clarinette que tout à l'heure. C'est une clarinette en sol, c'est une clarinette turque en fait. Donc il y a un son très oriental comme ça, presque assez proche du doudouk en fait. Voilà, ça en fait encore peut-être une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une musique qui peut être vraiment s'abreuver de toutes les influences possibles, que ce soit du côté de l'Amérique ou du Moyen-Orient. Voilà.
Je ne vais pas te questionner trop plus longtemps, parce qu'on est surtout là pour vous entendre jouer aussi quand même, et qu'on va manquer de temps sinon. Ouais. Mais juste une dernière question quand même. Mm-hmm. Il se passe quelque chose dans ce corps-là. Tu te contorsionnes sur scène quand tu joues en même temps. On sent que c'est évidemment très physique, la musique en même temps.
La musique klezmer, en tout cas moi, comme la manière dont je la ressens, et dont j'ai envie de l'interpréter, pour moi c'est proche, il faut être au plus proche de l'émotion, et donc ce que j'appelle la surinterprétation, c'est-à-dire que pour moi il faut réussir à se glisser dans la musique, et moi comme tu peux voir avec mon corps étrangement spacieux on va dire, se glisser dans quoi que ce soit est devenu complexe, donc ça me demande énormément de contorsion.
Vous allez continuer avec on s'approche encore du Grand Ouest avec Yom et les Yiddish Cowboys, puisqu'on va écouter Yiddish Cowboys, c'est
carrément,
ça que vous allez jouer, carrément.
Je dois reconnaître que c'est un thème traditionnel, mais dont j'aime vraiment pas du tout les paroles, pour des raisons que je n'expliquerai même pas ici. Et j'ai préféré le renommer, parce que par contre, la musique est très belle. Et donc, je l'ai renommé Yiddish Cowboys, parce que pour moi, c'est vraiment un thème à la fois yiddish et cowboy. Donc c'était si le thème fondateur presque, je dirais, de ce duo, c'est le premier qu'on a travaillé ensemble, parce que quand je l'ai entendu déjà il y a très longtemps par un chœur d'enfant de je sais pas où, déjà je me suis dit ce truc a une sonorité cowboy, on dirait du Morricone mais à Tel Aviv.
Et vous allez enchaîner deux morceaux d'ailleurs, je crois aussi. Je vous laisse commencer, on en parle juste après.
Oui.
Je vous laisse continuer, on en parle juste après. Vous êtes toujours en direct sur Radio Grenouille pour le concert radio commenté avec Yom et Aurélien Nafrichou. Thank you. Guillaume et Aurélien Africhou en direct sur Radio Grenouille pour le concert Radio Commenté.
Merci beaucoup. Merci beaucoup le Aurélien Africhou à la guitare baryton. Et juste, je voudrais juste vous prévenir, parce que le prochain morceau, c'est aussi un morceau traditionnel. Enfin, traditionnel, non, ça a été composé par un dénommé Shimon Cohen. C'est un morceau qui s'appelle Nigun, ça veut juste dire mélodie en yiddish. Et en fait, c'est le morceau le plus triste qui existe au monde, même yiddish. Alors, c'est vous dire. Donc, je suis obligé de prévenir. D'ailleurs, vous devez carrément signer des décharges pour les assurances et tout, parce que c'est vraiment le morceau le plus triste au monde. Voilà, Nigun.
Thank you.
Nigoun. Merci, Yom. Merci, Aurélien. On approche presque bientôt de la fin de cette émission, de ce concert radio commenté. C'est bientôt la fin, disais-je. Donc, on va vraiment... Je vais juste te poser une dernière question, peut-être, et puis vous allez pouvoir reprendre. Puis maintenant, je vois que vous êtes chaud, Aurélien. Il se réhydrate régulièrement, là, ça y est. Il boit de l'eau, je vous rassure. Bref, alors, on a vu avec toi rapidement qu'il y a un rapport assez particulier, singulier à la tradition dans ces musiques klezmer-là. Et toi, tu as le tien aussi, personnel.
Tout à fait.
Et qui est plutôt d'emmener cette sensibilité en tant que compositeur, en tant qu'interprète, dans des endroits où on ne l'attendrait pas nécessairement, vers des ailleurs, imaginaires. On pense aux Wonder Rabbies, à tes projets électroniques.
Exact.
Et là, le Grand Ouest, c'est le Yiddish Cowboy. Ouais. Et c'est encore une manière de décaler un petit peu les choses. Est-ce que ça ne serait pas en fait une manière de partir à la recherche de tes origines tout en ayant l'air d'aller ailleurs, ça?
Mais c'est totalement ça, parce que tous mes projets, d'une certaine manière, vont chercher mes origines. Le problème, c'est que mes origines étant assez complexes, entre ma mère qui vient des Carpates, enfin, juive de Transylvanie, mon père qui est ch'ti, mais adopté par un Américain, et ma famille qui, en tant que famille, enfin, toute une partie famille juive d'Europe de l'Est, qui est un peu éparpillée partout dans le monde. En fait, je pense que c'est une recherche qui ne finira jamais. Et puis, à un certain moment, j'avais besoin de me calquer, de me coller à la tradition pour sentir mon identité. Et maintenant, je m'aperçois que avec les années, et je pense tout simplement l'abandon total et de l'espoir de trouver un jour une quelconque identité chez un être comme moi, j'ai décidé d'explorer toutes les routes qui restent à explorer. Elles sont encore nombreuses, et c'est un peu comme ça, par cercle concentrique ou peut-être d'ailleurs pas concentrique, que à la fin, j'espère, en faisant la moyenne de tous ces projets sur quelques dizaines d'années, arriver à quelque chose qui ressemble à peu près à moi.
Le silence de l'Exode. Le silence de l'Exode, c'est quand même une manière de... Alors, pas de retour à la tradition, parce que c'est un projet où l'improvisation a aussi sa place, etc. Enfin, très ouvert, je veux dire.
Tout
Mais il y a une forme quand même de retour à des origines, serait-elle imaginaire ou imaginée en partie?
Exactement, mais ça c'est, ouais, je pense que le silence de l'Exode, c'est peut-être un pas vers une forme, sûrement pas de guérison, parce que je sais bien que ça ne m'arrivera jamais, mais en tout cas vers un stade un peu supérieur de réflexion vis-à-vis de mes origines. C'était une manière de retourner tellement loin dans le passé que bah, de toute façon on est tous frères, on est tous pareils, on vient tous du même endroit, de toute façon Lucie est notre mère à tous, et ça permet de se relaxer un tout petit peu sur d'où viens-je, que fais-je, que suis-je, pourquoi-je, c'est le silence de l'Exode. Pour moi, c'est le projet qui m'a permis vraiment d'abandonner totalement la recherche identitaire, en tout cas vers quelque chose de purement traditionnel. C'est-à-dire, je suis remonté tellement loin, là, 3300 ans, bon, je pourrais encore aller plus loin, mais là, je ne vais pas faire un projet sur les dinosaures quand même dans les semaines qui viennent. C'est, voilà, en plus, cet épisode biblique qui parle d'un moment où vraiment, c'est encore l'Ancien Testament, et puis, c'est aussi venu d'une rencontre avec un grand clarinettiste d'origine argentine, enfin, d'origine juive d'Europe de l'Est, mais après argentine, qui s'appelle Giora Feidman, qui est quelqu'un qui a à peu près 80 ans maintenant, qui est pour moi le plus grand clarinettiste klezmer vivant actuellement, et qui m'avait dit, il y a déjà assez longtemps, j'avais réussi à l'inviter sur un concert, il était venu, et après le concert, il m'a dit, quand j'entends ton son, ça me rappelle que nous les Juifs, il y a très longtemps, on était des Noirs qui habitaient dans le désert, et travaille là-dessus. Et peu de temps après, j'ai fait le silence de l'Exode. Voilà, et je pense que je suis remonté suffisamment loin pour plus avoir besoin de trop me prendre la tête sur les origines. Et là, le travail avec Aurélien sur l'Americana, c'est un travail qui va pas forcément chercher sur les ancêtres, et c'est vraiment un hommage à mon père d'un certain côté, et puis d'un autre côté, un amour simple et direct pour la musique américaine qu'Aurélien m'a fait découvrir et qui est en fait juste absolument magnifique, où il y a des trésors qu'on ne soupçonnerait pas.
Et le format chanson aussi.
Et le format chanson, exactement.
Eh bien, c'est à vous. Juste le temps que je rappelle que donc, Le Silence de l'Exode sera donné à Marseille le 14 octobre, le soir d'ouverture du festival Les Émouvantes, avec Yom et ses compères. Et on retourne tout de suite en live pour ce concert radio commenté avec Yom et Aurélien Nafrichou pour deux derniers morceaux.
Thank you.
C'était The Tears of the Man et on continue avec un Angel. C'est la fin de ce concert radio commenté et je pense que ce soit du côté des auditeurs ou des spectateurs, il y en a beaucoup qui regrettent que ce soit déjà la fin, mais c'est le jeu.
Merci voilà, en tout cas pour cette invitation.
Merci à toi, Yom.
Merci beaucoup.
Merci Aurélien. Je rappelle donc qu'on te retrouve à Marseille en octobre, le 14 exactement, pour le festival Les Émouvantes avec le Silence de l'Exode. Et puis du côté du Festival de l'Île-de-France pour la première de la création des Yiddish Cowboys.
Le 8 octobre. J'en profite pour passer un grand bonjour et grand merci à Émouvance au grand complet. Merci beaucoup pour la co-invitation. Merci à Radio Grenouille. Merci mille fois.
Merci à vous. Émouvance et Radio Grenouille vous ont proposé ce concert radio commenté dans le cadre du week-end Made in Friche. Merci à Sébastien Gély à la réalisation, Gilali Amiche également, toute l'équipe technique de la Friche qui a évidemment activement participé à ce moment aussi, à l'accueil des grandes tables. Merci à tous pour l'écoute. Restez calés sur les ondes de Radio Grenouille. Évidemment. Bye bye.